Jérôme, Jeannot Paul, de Don Bosco, Marcel Amboise, Avon Apmaché, Joannès, Neglakay et son épouse, n'oublie Frenel Marseille, Raymond.
Je vais te pour Rajo. La paix saluer Kitli et Ginette Beauregard, Rose en centre en maçon, Docteur Levaux, Docteur Alcindor, l'honorable juge Daniel Dantelus, maître Michel Coulange, Josette Décosse, ma sœur, et Patrice Roberjo, ils vont shooter les dessins en feuille à Roma Pmaché. Sonson Big Boss et James, Betty Ledan, et Michael Charles, la mère de Harold Fortin, mon caprié, moi tout le temps, Yves Basile, ma cousine yes. Sonia, Laurent, Yvette, Pascal, Tracy Nader, et Caridad Souffrant et Nicodème.
Effectivement, Raymond, nous ne pouvons pas oublier ta sœur Judith Charles, Jean-Yoc, Emmanuel Siméus, Joe Jacques, l'homme orchestre, Jacques Boutus, Merlène Boutus, Docteur Blondel Auguste, Père Claudel Petit-Homme, Messe à Saint-Vincent-de-Paul, tous les samedis 17h et dimanche 9h et 11h, Réjeanne Faustin et Jonathan de Vancouver, Dani Tikabzi, Sébastien Duperval de Tikabzi, Marc-Henri, Marcel Altema, Mélanie Poirier, Jacques Laurent, Obeda Louis-Josil, Mamiol, Frédéric Jean, Marianne Maillard, M. Guy, Ernst Dorsainville et Pachuco Tukobuzi, Pacheco Tukobuzi, Kembe Palagi.
Ouais. Alors, il a profité l'occasion, saluer ingénieur Alphonse Saint-Vincent, Maud Marco et Anne, bon bagage Yves Basile, Irlande et Caroline et Milo Chéri, Harold Faustin, Willow et John Jean-Baptiste, bon monde Yves Basile. Et non pas oublier non plus, là nous parlons de John Jean-Baptiste. C'est très facile, Yves Basile, pendant que mon bras déménager, le seul côté que nous sommes capables d'aller, P9, coin de Gunbury. Et sous le palmier, dans la ville La Salle, Yves Basile, il y a un seul numéro de téléphone.
514-595-3444. Et pas oublier, il y a une terrasse qui vous avez mangé.
Alors, nous sommes capables toujours aller dans 514-595-3444, un numéro très facile. Et Francine Trudeau dit nous, vous faites bon manger, tout bon Yves Basile. Mm-hmm. Nous gagnons également Mildred en traiteur. Nous allons oublier Saint-Antoine Yves Basile. Alors, yes. Abdimonio, branché, et puis M. Gain l'autre nègre avec les tours. Il faut nous parler de Garengo Production, Yves Basile, mon panneau. Oui. Pour la Demostène, Evelyne Gramon, Tévené Nerva, merci beaucoup Tévené, c'est mon sérieux. Jean-Philippe, mon panneau, Neglaka et tout. Et Madame Nerland, Parison, distribution de nourriture à travers le Grand Montréal. Alors, nous connaissons tous les jeudis, il y a un seul téléphone, sous besoin de téléphone pour cours de préposé.
514-237-44-13.
Alors, nous gagnons la familia, et Tony Martin et Mounette Martin. Et nous avons salué également mon frère, docteur Joseph Sylvain. Et nous avons salué Yves Martin et Yvette également. Mami Le Marché, Dever, Alcindor, Jean-Marie Desjans. Et nous avons salué également Clavis Sanon. Pierre Finéus, pasteur Denise de Laval, ma sœur Yadli Cavana, docteur Carlo Jean-Louis, Yves Rose Jean-Louis, Nicole Jean-Louis, c'est les deux sœurs, commandant expérience et sa mère, Nadine Pierre et Esdras Métayer, ma fille et mon garçon, Mona de Laval, agronome Saint-Preux, les deux sœurs de Rivière des Prairies, père Loulou, et Tanton Radio RHM, Richie Cool, Hubert Moulin, Louis-Dor Fonrose du Nord au Sud, et Louis-Dor Molière Boutus, et Lolo Tout Petit, et Lionel, Alors, pour toute information, Yves Basile.
Info à commercial samedimidiinter.com.
Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
Colis Plus a informé tout le monde qui a besoin de voyer colis en urgence en Haïti, que ce soit documents, procuration, mandat pension, médicaments, cellulaires, livres, maquillage, robe mariage, produits ou achetés sur Internet, perruques, relais Colis Plus. Sous besoin voyer un mallet 10, 30, 50 livres, un petit colis, gros colis, relais Colis Plus. La vini prend colis à la caillou et puis li livre li en Haïti dans 5 jours ouvrables garantis. Si vous besoin un service fiable et rapide, relez Colis Plus dans 438-995-1713 ou bien 438-282-9945.
Alors, c'est toujours avec grand plaisir que je reçois mon ami de longue date, Victor Henriquez, expert en affaires publiques. Victor, bonjour et bienvenue sur les ondes de CKUT, l'émission Samedi Midi Inter.
Bonjour Raymond et bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Alors, ça tombe bien ce samedi pour faire un bilan du G7, la question de vaccination de l'Afrique et la Chine qui provoque session parlementaire, opposition. Alors, on a beaucoup de choses à parler. Alors, commençons avec le G7 où le mercredi, c'était la grande rencontre tant attendu entre les deux grandes puissances. La Chine, la Chine, ça s'en vient. La Russie et les États-Unis. Alors, ça a été quand même une bonne rencontre, on pourrait dire. Les deux présidents ont parlé face à face en présence de leur ministre des Affaires étrangères.
Oui, tout à fait. Puis on le sait, on a beaucoup parlé pendant des années d'une amitié forte entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et tout le monde se demandait qu'est-ce que ce sera avec Joe Biden. Ben, il faut savoir que Vladimir Poutine aime probablement plus avoir des bonnes relations avec la puissance américaine que de préserver sa relation exclusive avec Donald Trump, parce qu'on a un sommet qui a très bien été dans les apparences, bien sûr, Raymond, et tu le sais, c'est toujours une question d'apparence. Mais on a vu des discussions très franches. Les deux chefs d'État étaient très heureux des discussions. Bien entendu, on sait qu'il y a des tensions entre les États-Unis et la Russie depuis très longtemps. On se rappelle de l'aventure des interventions russes pendant les élections, d'ailleurs, de Donald Trump en 2016. Mais à ce moment-ci, ce que l'on voit, c'est vraiment une volonté de collaboration. Puis je pense que des deux côtés, dans cette situation post-pandémie où est-ce que l'économie mondiale est fragile, les Américains et les Russes ont besoin l'un de l'autre. Alors, c'est pour ça qu'on a vu deux présidents qui sont très ouverts à travailler ensemble et qui ont besoin l'un de l'autre, d'ailleurs.
Alors, il y a deux questions quand même très intéressantes qu'on pourrait en parler. C'est la question de cyberattaque du côté de la Russie, également sur la question des droits de l'homme.
Oui, tout à fait. C'est des sujets qui sont extrêmement importants au niveau de la cybersécurité. Il y a un dialogue qui va être instauré entre les États-Unis puis la Russie sur la question de la cybersécurité qui est dans les limbes de la dégradation de la relation entre la Russie et les États-Unis est très affectée par la question de la cybersécurité. Donc oui, là-dessus, il y a de l'ouverture de part et d'autre. Également, un compromis aurait été discuté entre les différents ambassadeurs pour d'abord dégeler les relations. Rappelons que les ambassadeurs des deux pays avaient été rappelés pour consultation il y a quelques mois. Donc, il y a une volonté de recommencer à travailler ensemble à ce niveau-là. Au niveau des droits de l'homme, bon, on sait tous qu'au niveau de la Russie, il y a certains enjeux importants. notamment la question de l'emprisonnement de l'opposant. Et là, excusez-moi pour l'erreur du nom. Je m'assure que je vais me tromper.
Pas de problème. Je sais de quoi tu parles. Même sa femme a été arrêtée également.
Exactement. Donc, l'opposant Alexei Navalny, c'est un symbole en tant que tel des problèmes de droits de l'homme en Russie. Joe Biden a lancé un avertissement sur la situation de Navalny, d'ailleurs en disant que la mort de Navalny, la mort potentielle de Navalny détériorait les relations de la Russie avec le reste du monde. Ils en ont certainement parlé, mais un peu comme quand on parle de droits de l'homme avec la Chine, Raymond, tu le sais, les leaders occidentaux vont en parler, mais vont toujours se garder une certaine réserve parce qu'il y a en diplomatie ce respect de ne pas rentrer dans les affaires internes d'un pays. Donc, je pense que du côté de M. Biden, on a passé des messages, mais en diplomatie internationale, la question des droits de l'homme est très fragile. C'est un dossier très sensible. Alors, il faut le toucher avec des pincettes. Mais ce que je vous dirais, c'est que ce G7-là, Raymond, c'est un peu le symbole de ce que le monde sera en post-pandémie puis en post-Donald Trump. On a entendu parler beaucoup de Donald Trump avant ce G7. Joe Biden est venu installer sa nouvelle façon de faire, est venu installer un nouveau leadership. Et bien entendu, il a été accueilli très favorablement par ses collègues d'un peu partout dans le monde. D'ailleurs, M. Biden a beaucoup utilisé l'axe Allemagne-États-Unis dans ce sommet-là. On sait qu'Angela Merkel est une alliée de Joe Biden importante pour lui. D'ailleurs, c'était le dernier sommet d'Angela Merkel qui n'aura pas d'autre G7 parce qu'elle se retirera du pouvoir dans les prochains mois. Mais l'axe germano-américain sera extrêmement important pour Joe Biden et il sera entretenu énormément par Joe Biden dans ses relations avec les pays européens.
Alors, je pourrais dire que c'est une des femmes comme chef d'État sortante la plus aimée et de la planète.
Il y a un énorme respect de la planète entière vers Angela Merkel, qui a eu une année difficile aussi par la situation de la COVID. On sait qu'en Allemagne, ça n'a pas été facile non plus, comme un peu partout dans le monde. Mais c'est une leader qui, au niveau de la diplomatie internationale, a un respect énorme de ses collègues. Elle a, selon moi, une influence aussi grande que celle qu'a eue Margaret Thatcher dans ses belles années. La Dame de Fer était reconnue comme étant centrale dans les relations dans les années 90. On se rappelle de l'époque des relations entre Jimmy Carter, George Bush, Jean Chrétien et Margaret Thatcher a été de toutes les discussions, entre autres à l'époque de Brian Mulroney également. Pour les gens de l'ère moderne, Angela Merkel aura certainement le même genre de symbolique. Elle fait partie de ces femmes qui auront une influence énorme sur la géopolitique mondiale.
Alors, il faut dire qu'ils ont bien choisi l'endroit pour faire ce sommet entre les deux grandes puissances.
Oui, tout à fait. Puis bon, en même temps, c'est un message aussi, tu sais, le sommet du G7. Rappelons que l'Angleterre s'est retirée, la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne, ce fameux Brexit dont on a tant parlé. Donc, pour moi, il y a également une symbolique à faire un sommet du G7 en Grande-Bretagne. Également, au niveau de la vaccination, on sait que ça a été un des pays les plus actifs en termes de vaccination. Rappelons que ça a été parmi les premiers à autoriser les vaccins sur leur territoire. Un pays qui aujourd'hui déconfine très rapidement, même s'ils ont dû mettre un certain ralentissement sur leur déconfinement à cause du variant Delta. Donc, oui, l'endroit n'a pas été choisi au hasard, mais on a senti beaucoup de décontraction de la part des leaders mondiaux. Je pense qu'il y avait ce plaisir de se retrouver. Rappelons-nous, ça fait un an et demi que les déplacements ne sont pas là, les rencontres ont eu lieu de façon virtuelle. Là, on se retrouve en personne. Même la reine s'est permis de faire de l'humour dans la rencontre avec les chefs d'État. Donc, imaginez à quel point l'ambiance devait être bonne pour que la reine fasse quelques jokes.
Alors, et parler de Joe Biden, c'est parler de sa donation en termes de vaccins aux pays les plus pauvres. Et l'Afrique et Haïti en a bénéficié également. C'est 1 milliard de vaccins aux pays pauvres, les plus pauvres de la planète.
Oui, et là-dessus, Joe Biden clash énormément avec son prédécesseur. On rappelle que au début de la production de vaccins ou de la vaccination, le président Donald Trump à l'époque avait fermé les frontières des vaccins, donc les vaccins ne pouvaient pas sortir du pays. Il l'avait fait également avec les masques M3 au début de la pandémie. Et là, ici, on a un Joe Biden qui, bien entendu, de par sa position en tant qu'élu démocrate, a une compréhension très différente des enjeux mondiaux. et qui s'engage dans cette course contre la montre qu'on aura pour lutter réellement contre cette pandémie. Parce qu'on va se le dire, Raymond, tant que les pays les plus pauvres n'auront pas accès à la vaccination, nous ne pourrons pas penser qu'on sort de cette pandémie mondiale. Pourquoi? Parce que les déplacements mondiaux seront encore très risqués, parce que l'ouverture des frontières ne pourra pas être totale tant qu'on n'aura pas une planète entièrement vaccinée. 1 milliard de vaccins, c'est beaucoup. En même temps, il y a 6 milliards d'habitants sur notre planète. Il y a près de 3 milliards de personnes qui vivent dans la pauvreté. Il faudra absolument que les leaders mondiaux mettent des efforts constants à s'assurer que la vaccination dans les pays les plus défavorisés se fasse. Et notamment, on avait le président de l'Afrique du Sud qui était présent à ce G7 comme invité et qui, bien entendu, a poursuivi le plaidoyer pour s'assurer que l'Afrique reçoive sa part de vaccins également. Et ce sera le cas. Je m'attends à ce que ce soit une première annonce, mais il en faudra d'autres, parce que comme je vous le dis, c'est près de 3 milliards de vaccins qui seront nécessaires dans ces pays-là.
C'est quand même important de souligner le banc et la Chine qui est sur le banc des accusés avec ce qui s'était passé à Wuhan, par exemple.
Oui, tout à fait. Puis ça, ce sera intéressant. Vous savez, moi, j'ai toujours pensé depuis le début de cette pandémie que ça sera très difficile d'avoir les raisons réelles ou les explications du pourquoi tout cela a commencé. Mais bien entendu, au début, la théorie d'une erreur humaine au laboratoire de Wuhan était une idée vue comme loufoque par plusieurs. Aujourd'hui, elle est analysée avec sérieux. Est-ce que ce sera ça? Je n'en ai aucune idée. Mais oui, la Chine est sous pression. Également, on a beaucoup entendu parler de la Chine durant ce G7 parce que le G7 s'est engagé à développer des programmes énergétiques, des programmes de chemin de fer et des programmes d'infrastructure, que ce soit en Asie ou en Afrique. Et là-dessus, elle suit un peu la mouvance de la Chine qui, par son président, avait annoncé il y a quelques semaines un programme semblable aussi de développement d'infrastructure dans ces pays-là. Donc, cette bataille entre le G7 et la Chine, entre les États-Unis et la Chine, pour être reconnue comme la première puissance mondiale, elle se poursuit, mais tant mieux si elle peut bénéficier des endroits plus défavorisés de notre planète en s'assurant que les pays les plus forts aillent investir des montants importants dans ces pays-là. On l'a toujours dit, la Chine a un œil très important, une présence très active en Afrique notamment. On sait à quel point l'Afrique est riche de ressources naturelles. Alors pour les pays du G7, c'est essentiel de ne pas laisser la Chine prendre trop de pouvoir dans ces pays-là. Et c'est pour ça que l'Afrique est toujours centrale dans les discussions de géopolitique mondiale.
Alors, parler du G7, c'est parler de notre premier ministre qui faisait partie des grandes puissances qui étaient réunies. Alors, et ça lui a donné la possibilité de rencontrer non seulement la reine Elisabeth, le premier ministre de Grande-Bretagne, ainsi que M. Biden. Et je pense que c'était le plus important, surtout pour parler des deux Michael qui sont emprisonnés en Chine.
Oui, on doit parler tout à fait de M. Trudeau qui était là sans son épouse, qui était restée à Ottawa avec les enfants, puis aussi probablement en raison, qui était restée à la maison en raison de la quarantaine obligatoire au retour. Hein. Alors, il faut
se rappeler. Mais il n'est pas resté longtemps en quarantaine, par exemple.
Son test est arrivé très rapidement dans le cas de M. Trudeau. Il est arrivé à 19h et je pense qu'il est sorti de l'hôtel à 8h le lendemain matin, donc une douzaine d'heures après. Cependant, oui, M. Trudeau, bien entendu, chaque rencontre comme celle-là est une occasion de faire un plaidoyer pour l'appui des grandes puissances dans son désir de faire libérer les deux prisonniers qui sont en Chine depuis maintenant plus de 3 ans, si je ne me trompe pas, qui sont emprisonnés en Chine. Donc oui, il y a besoin de l'appui de Joe Biden également parce que, rappelons-le, une des principales raisons de cet emprisonnement, c'est que c'est une sorte de réplique de la Chine à l'emprisonnement d'une des dirigeantes de Huawei au Canada, qui avait été arrêtée au Canada suite à une demande d'extradition des États-Unis à l'époque de Donald Trump. Donc, bien entendu, le gouvernement canadien, oui, a de bonnes relations avec la Chine, ou des relations commerciales importantes, disons, avec la Chine, mais elle n'a certainement pas l'influence que peuvent avoir d'autres pays comme les États-Unis pour mettre une pression suffisante pour faire libérer ses prisonniers. Donc oui, M. Trudeau attendait certainement avec impatience ses rencontres avec ses collègues, mais également des rencontres très positives aussi avec le président Macron. On sait que Il y a une communauté de pensée, de génération avec le président Macron. Et rappelons aussi que l'accord de libre-échange Canada-Europe est extrêmement important pour le Canada. C'est un accord qui est très jeune, mais qui nécessite justement d'être entretenu par des relations de qualité entre les pays de l'Union européenne et le Canada.
Victor, je crois que le Bloc québécois a fait des gains cette semaine. Alors, mardi, c'était le 30e anniversaire de la fondation et du Bloc québécois. On en a connu plusieurs, les Lucien Bouchard, on peut parler de Gilles Duceppe, qui était quand même un chef assez éloquent. Et je pourrais même dire comme son père défunt. Et finalement, mercredi, ça a été un gain important avec la déposition d'un projet de loi et à la Chambre des communes qui a été adopté. C'est quand même très important comme gain pour le Bloc québécois.
Tu me permettras une précision. Donc, c'est une motion qui a été adoptée. Une motion présentée par les bloquistes qui a été adoptée avec une écrasante majorité, 281 voix pour, 2 voix contre cette motion. Il y a eu quelques abstentions chez les conservateurs et les libéraux. Et c'est une motion qui déclare la décision du gouvernement Legault qui modifie la Constitution pour inscrire le Québec comme une nation francophone qui a le français comme langue commune. Donc, c'est un changement qui peut sembler esthétique, mais qui ne l'est pas du tout. Déjà, M. Trudeau avait cependant annoncé son désir d'accepter la demande de Québec, d'accepter la modification constitutionnelle de Québec. Mais à travers ce vote-là, le Bloc vient s'inscrire dans cette acceptation-là et vient lui donner une importance essentielle parce que en votant à la Chambre, on vient d'accorder une valeur supplémentaire à cette acceptation que M. Trudeau avait déjà commencé à discuter. À ce moment-là, ça vient attacher tous les partis d'une certaine façon. Et oui, ça fait 30 ans que le Bloc existe, et Dieu sait que dans les dernières années, on a souvent prédit la fin du Bloc québécois, mais M. Blanchette est un excellent politicien. Il a réussi à redonner une voix au Bloc québécois, peut-être même une raison d'être, je vous dirais, en portant à Ottawa des dossiers importants pour les Québécois, notamment, je pense à l'achat de la laïcité, par exemple, le projet de loi sur la laïcité qui avait été adopté par le gouvernement du Québec. M. Blanchette s'en est fait un défenseur à Ottawa, pose de très bonnes questions et on commence à revoir un peu cette renaissance du Bloc qui bénéficie beaucoup de la faiblesse du NPD, parce que rappelons que le Bloc s'est affaibli beaucoup à l'époque de la vague orange avec M. Layton en 2011. Mais retrouve ses lettres de noblesse, retrouve une pertinence à Ottawa, et ce sera extrêmement intéressant à suivre parce qu'il y a une élection fédérale à nos portes. On sera en élection probablement à l'automne prochain, et ce sera intéressant de voir jusqu'à quel point M. Blanchette est capable de faire monter sa députation. Rappelons que le Bloc a déjà eu, il y a une dizaine d'années, peut-être plus de 40 députés sur les 75 au Québec à l'époque. Je m'attends à ce que la performance de M. Blanchette soit tout aussi intéressante à ce moment-ci. Et il y a un vase communicant automatique. Quand le Bloc est fort, les libéraux s'affaiblissent au Québec. Et rappelons que Justin Trudeau a besoin du Québec pour être élu majoritaire. Ça a fait partie de sa première élection majoritaire. Il a besoin d'une députation forte au Québec parce que la faiblesse des libéraux dans l'Ouest est très difficile à attaquer. Et c'est pour ça que si M. Trudeau veut être majoritaire, il a besoin d'un Bloc qui reste d'une certaine façon marginal. La montée du Bloc n'est pas une bonne nouvelle pour une réélection de Justin Trudeau et peut être une très bonne nouvelle pour les conservateurs qui dominent dans l'Ouest canadien.
Ce qui est important, le jour de l'anniversaire du Bloc, 30e anniversaire, c'est la même journée que Mme Mélanie Joly avait présenté son projet sur la langue française.
Oui, tout à fait. Et c'est justement ça aussi, où est-ce que lorsqu'on regarde la façon que les bloquistes prennent leur place, c'est justement dans ces sujets qui sont des sujets très divisants entre le reste du Canada et le Québec. Et oui, depuis longtemps, lorsque les libéraux sont au pouvoir, le Bloc trouve des brèches dans le discours qui lui permettent d'avoir une voix forte auprès des Québécois. Et encore une fois, le Bloc, à cette journée de 30e anniversaire, s'est justement positionné dans cette question de la langue, une question sur laquelle ils ont toujours très bien performé et qui, je le répète, leur permettent d'avoir une raison d'exister très forte à Ottawa. Et là, on est au-delà de la souveraineté. Rappelons-nous que pendant plusieurs années, le Bloc a été un peu le penchant du Parti québécois à Ottawa. Aujourd'hui, on parle d'un Bloc qui va porter la voix de la CAQ, va porter la voix du gouvernement du Québec et va porter la voix des Québécois à Ottawa. Et on se retrouve là avec une pertinence renouvelée, où la performance du Bloc n'est plus directement rattachée seulement à la performance de la souveraineté au Québec. Et ça, c'est un très grand changement de paradigme. Ce sera une des très grandes victoires de M. Blanchet. Maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est ce qu'il est capable de le capitaliser puis de le changer en vote et en nouveau député lors de la prochaine élection fédérale.
Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Le Québec et Ottawa, ça sent l'avenir d'une élection en période pandémique.
On va finir de vacciner, on va s'en aller voter. C'est une certitude pour moi, Raymond. Les indicatifs sont tous au vert pour une élection probablement, moi je pense, au mois de septembre, octobre. Donc déclencher au mois de septembre avec un vote au mois de fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Je pense que ce sera probablement le meilleur timing à ce moment-là pour M. Trudeau. Pourquoi? Parce que faut le dire, la vaccination et l'approvisionnement en vaccins a été un succès. Ça a démarré très difficilement. Ça a été dur à installer, mais aujourd'hui, si les provinces peuvent vacciner adéquatement, notamment le Québec, qui est le champion canadien en termes de vaccination avec la Saskatchewan, c'est parce que l'approvisionnement du fédéral a également fonctionné. Il va également pouvoir targuer sur la force de son intervention pour aider les citoyens durant la période de la pandémie. On se le rappelle, il y a eu la PCU, les subventions salariales, peut-être même trop de PCU, parce que certains dénoncent la PCU aux étudiants et à d'autres groupes. Mais quand même, M. Trudeau va justement certainement arriver en élection en se présentant comme le premier ministre qui prend soin des Canadiens, qui l'a fait pendant la pandémie et qui là veut profiter de la relance pour avoir un Canada plus vert, un Canada plus responsable, un Canada plus fort sur le développement durable. Et de l'autre côté, vous verrez des conservateurs qui seront certainement, qui s'accrocheront sur le déficit fédéral pour justement démontrer le besoin d'un changement de gouvernement, le besoin d'avoir un gouvernement qui va remettre l'équilibre budgétaire comme priorité gouvernementale. Et je me pose la question à savoir si après une pandémie mondiale comme celle qu'on a vécue, la priorité des Canadiens sera l'équilibre budgétaire d'une certaine façon, puis la gestion rigoureuse des finances publiques, ou si ce sera une relance économique très interventionniste avec beaucoup d'interventions de l'État et beaucoup de support de l'État, qui est ce que les libéraux vont certainement proposer. Donc, je ne pense pas que les autres partis auront leur voix. Je pense que, comme je le disais, le Bloc et le NPD auront une voix au chapitre et seront importants dans cette élection. Mais je pense qu'on doit se le dire, le Canada est encore un pays bipartite, parce que le pouvoir est encore naturellement partagé entre les libéraux et les conservateurs. Et c'est là où se situera les deux options de gouvernement pour les Canadiens, selon moi.
Alors, et si on fait un parallèle entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, on peut dire déjà, et ça va être une élection facile pour François Legault et son gouvernement, contrairement au fédéral avec Justin Trudeau.
Disons que je pense que tous les chefs fédéraux rêveraient d'avoir les chiffres de satisfaction que François Legault a entre les mains. Les données de sondage sont claires. Oui, M. Legault est sur le pilote automatique, il est sur une autoroute vers une victoire en 2022. Son appui chez les francophones est ridiculement élevé. C'est presque du jamais vu. Maintenant, dans une crise, il faut se le dire, hein, souvent les Québécois ont appuyé leur gouvernement. Maintenant, M. Legault a un an avant la prochaine élection. Et c'est une année piège pour le gouvernement Legault parce qu'il devra s'assurer de garder ce niveau d'appui. Un an en politique, c'est extrêmement long. Et pendant la prochaine année, on va faire des bilans de la pandémie. Alors, on va commencer à parler du bilan CHSLD, de ce qui s'est passé, des dépenses du gouvernement, etc., etc. Une occasion pour l'opposition de prendre sa place. D'ailleurs, cette semaine, Dominique Anglade a changé de chef de cabinet en nommant une jeune femme, Valérie Rodrigue, qui a été nommée comme chef de cabinet de la chef d'opposition officielle. Et selon moi, ça aussi, c'est le signe que Dominique Anglade veut instaurer une nouvelle façon de faire, de nouvelles voies. Patrick Huyotte était un ancien député, très bon chef de cabinet, je n'ai rien à lui enlever. Cependant, en nommant sa nouvelle chef de cabinet, Mme Anglade se met clairement en position préélectorale, amène une femme qui a été chef de cabinet du ministre de l'Éducation, Sébastien Trou, à l'époque, qui est une femme de région aussi, originaire de Shawinigan. Alors, elle mise sur justement une plus grande ouverture avec les régions. La charte des régions de Mme Anglade sera un projet à surveiller dans les prochains mois. Donc, je ferai bien attention à ne pas enterrer les autres partis un an avant l'élection parce que en politique provinciale, on a déjà vu des comebacks très impressionnants. Un exemple serait par exemple en 2002 quand M. Charest, un an avant l'élection générale, perdait des élections partielles contre la DQ à l'époque. Les libéraux s'en allaient nulle part et un an après, en 2003, il remportait le pouvoir. Donc, ça peut changer très, très vite. Mais oui, clairement, M. Legault est dans une position favorable. Il a maintenant la responsabilité de garder le siège du conducteur. Je m'attends à un remaniement ministériel probablement à la fin de l'été également pour la CAQ, juste de façon à replacer certaines choses pour s'en aller en période préélectorale. L'élection à date fixe sera en octobre 2022 et cette notion d'élection à date fixe, qui est nouvelle quand même, Raymond, au Québec, elle vient amener aussi une perspective différente parce que quand on sait où l'élection va être, ça permet à tout le monde de s'enligner en période préélectorale. Ça fait des périodes préélectorales beaucoup plus longues. Alors, attendez-vous à une belle année d'annonce. Le gouvernement sera en mode annonce et l'opposition sera en mode promesse. Donc, on a tout un changement de paradigme. Et je tiens à préciser là-dedans, Raymond, que j'ai très hâte de voir, comme fervent de la politique, j'ai très hâte de voir le débat des chefs de la prochaine élection provinciale. François Legault est un très bon politicien, très bon communicateur. Dominique Anglade est une femme extrêmement intelligente. Elle est une femme qui a une très bonne capacité de communication puis une très bonne connaissance des dossiers. Et on attend tous Gabriel Nadeau-Dubois, qui sera vraisemblablement le chef porte-parole de Québec solidaire à la prochaine élection provinciale, puisque Manon Massé a décidé de laisser cette place-là, et qui est un redoutable debater. Moi, je l'ai vu en commission parlementaire à plusieurs reprises. C'est un homme extrêmement intelligent. C'est un jeune qui a une verve extrêmement facile, qui a une capacité de convaincre. On va certainement avoir une élection de très grande qualité en 2022 avec des politiciens qui savent parler aux gens. Alors, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qu'ils auront à nous proposer.
Alors, il faut souligner que Dominique Anglade, c'est quand même une femme compétente et pour ses qualités et bagarreuse en même temps en face de son ancien collaborateur parce que les deux étaient dans le même parti.
Oui, tout à fait. Il faut le rappeler, Dominique était présidente de la CAQ. Dominique Anglade, c'est une femme qu'on connaît tous également. Cette force, vous savez que bon, Dominique, pour ceux qui ne le savent pas, est la fille du regretté Georges Anglade, mais je serais surpris qu'il y a des gens qui ne le savent pas chez nos auditeurs, Raymond. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a chez Dominique cette connaissance profonde de la politique, cette connaissance profonde des gens. Également, la maman de Dominique qui était très impliquée socialement. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on voit chez Dominique Anglade une tendance à ramener le Parti libéral un peu plus vers la gauche, avec un côté social un peu plus développé. Et Dominique Anglade elle-même est une femme très économique aussi. Rappelons qu'elle a été ministre de l'économie, elle a travaillé dans de grandes entreprises, elle a été présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Donc, cet équilibre entre le social et l'économique, c'est ce que Dominique Anglade devrait instaurer. Elle a un très bon caucus, très jeune, mais elle a aussi un potentiel de nouveauté important parce qu'il y a dans ce caucus-là des députés qui, certainement, dans la prochaine année, se questionneront sur leur avenir politique. Des gens qui sont là depuis très longtemps, je pense à Pierre Arcan, je pense à Louis Thériault, à Hélène David ou à Christine Saint-Pierre, qui ont fait un grand travail, mais qui, à ce moment-ci, pourraient se questionner à savoir s'ils veulent continuer et pourraient libérer des comtés extrêmement intéressants pour les libéraux. Et puis, c'est vraiment en politique, avoir des comtés gagnants, c'est essentiel pour attirer des gens de qualité. Alors, Dominique Anglade a plusieurs cartes entre les mains pour faire une bonne performance. Maintenant, avant de battre un gouvernement, il faut que les gens veuillent changer. Et ça, la volonté de changement, les libéraux n'ont pas encore réussi à l'imposer. Ils auront un an à partir de la prochaine session du mois de septembre pour amener dans les Québécois une volonté de changement. Ce sera là le plus grand défi. Et je vous avoue que je trouve que ça va être très difficile, mais pas impossible pour une femme de la qualité de Dominique Anglade.
Ça a été un plaisir d'être avec toi, mon cher ami. Victor Henriques, expert en affaires publiques. Une salutation spéciale à notre ami Harold et sa mère qui nous écoutent en direct sur les ondes de CKUT.
Merci Raymond, merci à toi. Et si tu me permets, joyeuse fête des pères à tous les papas auditeurs de Samedi Midi Inter et à toi, mon cher ami.
Merci, pareillement, mon cher. Alors, c'était Victor Henriquez que vous venez d'entendre. C'est un expert en affaires publiques, très connu sur la scène politique au Canada et Québec. Nous allons faire une petite pause et je vous reviens avec d'autres informations.
Tu devrais aller chez Jean Coutu.
Vous souffrez de diabète, hypertension, cholestérol. Vous devez renouveler vos prescriptions. Vous avez une nouvelle prescription. Ou encore, vous avez de la difficulté à suivre vos prescriptions. Eh bien, votre solution santé est la pharmacie Jean Coutu, Beverly Salomon. Nommé meilleur laboratoire de toutes les pharmacies Jean Coutu au Québec. 514-251-0555. Situé au 5965 rue Bélanger, coin Lacour. Et n'oubliez pas, nous livrons partout. Pharmacie Jean Coutu, Beverly Salomon, meilleur laboratoire au Québec.
Je m'en vais chez Jean Coutu, je m'en vais chez Jean Coutu, je m'en vais chez Jean Coutu, je m'en vais chez Jean Coutu.
Hey, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac des Îles.
Ton vaccin Lac des Îles?
Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille.
Pas bête, ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ça me manque les soirées improvisées avec les amis.
Hey, moi, j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
Colis Plus a informé tout le monde qui besoin voyer colis en urgence en Haïti, que ce soit documents, procuration, mandat pension, médicaments, cellulaire, livres, maquillage, robe mariage, produits ou acheter sur internet, perruque, relais Colis Plus. Sous besoin voyer mallette 10, 30, 50 livres, un petit colis, gros colis, relais Colis Plus. La vini pren koli a la kayou et puis li livre li en Haïti dans 5 jours ouvrable garanti. Si vous besoin un service fiable et rapide, rele Colis Plus dans 438-995-1713 ou bien 438-282-9945.
Alors, je m'appelle Salut Charles David, un collaborateur de longue date, pour ne pas dire membre de l'équipe. Et comment est Charles David?
Très bien, très très bien. Je regarde, hélas, la situation se dégrader de plus en plus.
Alors, il faut pointer donc que c'est partout à travers le pays, côté que les gangs agissent en roi et maître Charles.
Mais c'est, j'allais dire, son étape qui était attendue, puisque depuis quelque temps, qui est-ce qui a dirigé le pays? C'est Jovenel Moïse, soi-disant. Et qui est-ce qui a dirigé Jovenel Moïse, ce gang? C'est-à-dire que nous avons un accord, sont question de combien il a payé, il a kidnappé mon œuvre, il a déterminé qui monde qui voit dans le travail, il a déterminé à qui le travail a fini. Bref, son pays, c'est pas même au stade de Somalie, non, ni là. Nous sommes dans un pays contrôlé, organisé et dirigé par des gangs. Et son système qui allait depuis longtemps, c'est-à-dire faire peur. Il faut faire peur aux gens. Son système qui est établi sous Duvalier à Tmacoute, son système qui est établi sous Aristide, qui a mis en plan cette histoire de gang, et puis une chimie qui met. C'est-à-dire que Mounio Benantetio, que l'homme on a, il a fait un groupe, il a fait un fait qui n'est pas de bagaille, il a kidnappé Moun, il a rançonné Moun. Bref, ce travail. Donc, je ne comprends pas que finalement, l'OEA allait en Haïti et qu'il soi-disant subitement découvrit que pays a son pays qui dirigeait pas des gangs. Alors, commission le a dit oui, que go et sécurité. Mais cette sécurité date pas d'aujourd'hui. Son bail qui fait depuis longtemps. Nous n'avons dit aucun ton bagay. Il a dit que, et qui déclaration n'était pas? Nous dit, il a pris déclaration joute. Il a pris déclaration ministre de la Justice, chef de la police, avec Jovenel. Oh oui, Kounia, il a pas peur rien, il va mettre gang ou pas. Donc, c'est qu'on connaît que gang. Qui est-ce qui assiste gang? Qui est-ce qui armé gang? Haïti, pas pour des âmes. Donc, munitions ak zam son moun ki ba yo on ki est ce qui te commande zam c'était bon moun lo ba tout mais tout moun sa yo bref nous assistons à une espèce de dégradation totale dans situation dans pays qui par contre côté pour aller il va comme côté pour aller parce que communauté internationale là commence pas à dire bonjour dire yo mais yo pas prendre référendum après combien de temps. Après combien de temps, il y a une vidéo qu'il n'y a pas de référendum. Et puis, qu'il y a, il y a laissé entrevoir au oui, il faut être à sélection. À qui est-ce que la sélection? À Jovenel Moïse? Ceci n'est pas sérieux.
Alors, Charlot, tout à l'heure, on dit que c'est Jovenel qui venait avec affaire de gang. Hein. Moi-même, m'a dit, depuis sous Michel Martelly, et t'es gang, que l'associé avec les pouvoirs, et c'est même un gros chef de gang. Parce qu'il y a un pile gang qui tue le monde, dérançonne le monde, et puis c'est lui-même qui a partagé les bâillons.
Mais certainement, c'est. Mais, on parle de Jovenel Moïse, on parle de Michel Martelly. Puisque c'est la même filiation. Ou pas comprendre qu'on conseille de monde qui droguait, qui a dirigé un pays, et puis donc qui ça fait. Donc ils agissent dans un concept de malveillance qui n'a rien à voir avec le pays d'Haïti. Vous avez affaire à une bande de voyous, de nervis, qui prend le pays en otage. Et qui prend le pays en otage avec, hélas, un sentiment où c'est un géo. Donc, communauté internationale, qui a parlé, oui, faut respecter la démocratie, que Jovenel Moïse était démocrate, d'ailleurs, c'est l'idée dit tête que là, devant l'ONU, et puis il dit démocrate. Non! Il faut remettre les choses dans leur véritable perspective. Nous avons, nous pas des gouvernements, nous pas des l'État, nous avons besoin de monde qui aimait, qui a terrorisé monde. Ils ont rentré la caillou, ils ont arrêté les gens, ils ont kidnappé, ils ont rançonné les gens, ils ont marché dans la rue. Ils ont passé devant la télévision. Et puis, donc, ils ont finalement montré que ils ont maître et roi dans le pays. Maître et roi avec assentiment, avec accord, dont le gouvernement soi-disant établi. Ceci est un crime. C'est un crime qui peut être un crime contre l'humanité. Ou pas qu'il doit prendre peuple ou à plaguer vagabond à diriger. Mais tout pays au monde, mais c'est vagabond qui dirige un pays. Or, dans ce pays, nous avons le talent de repérer tous les voyous pour les porter, nom de Dieu, à une certaine forme d'autorité, à une certaine forme de direction. Nous, il n'y a pas rien à faire.
Alors, si nous gardons, nous voyons un pays qui vraiment à terre, pas gagné aucune institution républicaine qui fonctionnait.
Mais non seulement pas aucune institution républicaine, pas gagné, pas gagné. C'est même pas une constitution, puisque négaté et cementé sous constitution, il violait. Et puis pas gagné, plâché. Bon, maintenant, je ne parle pas des autres services que l'État, de ses conceptions régaliennes, dit pour donner au peuple, c'est-à-dire le droit à la santé, à la travail, tout ça. Bon, pas de l'hôpital. Bon, vous n'avez pas de vaccin. Il n'y a pas de coup de malade. L'école, il n'y a pas de l'école. Il ferme l'école. Il fait ça, vous voulez. Nous sommes un pays à la dérive. Nous sommes à d'autres méduses qu'à prendre là. Depuis longtemps, prévage était d'une nager pour nous aussi. Même pas qu'à nager encore. Ta mounyo koke koyo, sa gyo yap bwen, sa gyo yap fete, sa gyo yap droge tetyo, kokaïne yon bon. Mais ceci n'est pas sérieux. Nous sommes à une heure de Miami, mes amis. Une heure. Et puis pour un pays qui est livré à une bande de vagabonds, de voyous. C'est pas possible, ça.
Alors, Charlot, nous, pendant que mon ap mori, les hôpitaux sont remplis, débordés. Gen moun kap payer l'argent pour au bayo faux et non capable de dire comment
attestation.
Non, alors monde qui voulait à le traiter à l'extérieur du pays et bien le qui a fait test yo bayo un faux test pour capable prendre avion alors que c'est des gens malades. C'est des gens malades qui testaient et positifs eh bien, ils ont payé l'argent pour avoir un test négatif. Alors, maintenant qui état que pays a eu, sans compter des policiers qui partent calés pour formation, et eux-mêmes, ils ont tout caché, ils n'ont pas retourné dans le pays.
Parce que tout est à la dérive, tout est à la dérive. Son pays qui a dérivé, là, son pays par contre, côté le voilé. Il n'y a pas qu'on côté le poilé, parce que Mounio, chaque fois, bon, regardez ça, les dieux dit. Pour en parler de référendum, M. Mathias Pierre, ou là, qui voyou encore, qu'il était décrété, oh, oh oui, que c'est à cause de Covid, là, qu'il a pas obligé de retarder le référendum. C'est-à-dire que toutes les excuses, ils ont utilisé. Mounio qui a dit, écoute, on va il y a plus de dit que peut-être quelques ouragans ou cyclones passent là, et puis on dit que c'est pas fatio. Mais un n'est pas fatio.
Alors, Charlot, en parlant de Mathias Pierre, et tout de suite après, là, nous finissons conclu. Je vais faire plaisir pour me faire entendre qui est ce monde que Mathias Pierre est lié, nègre qui est responsable en question de référendum anticonstitutionnel.
Quand on regarde, Mathias Pierre, c'est, bon, c'est pas aujourd'hui, Mathias Pierre, mais Mathias Pierre était une organisation avec un monde de bourgeois et tout fait l'argent. Écoutez, bagaille. J'espère, je crois, que l'OEA, par contre, qui va écrire pour là, par contre, qui va sortir pour le bien tête, puisque l'OEA responsable de tout le qui passe en Haïti depuis son Aristide. Ah ben, écoutez, bagaille. Alors, m'espère que France a dit du référendum là, il n'y a pas qu'à marcher, parce que il y a l'appui, et il n'y a pas de vaccin, pas de
tout bagaille. Juste un petit éclaircissement, il faut qu'on dise que l'OEA a commencé à faire bac sous journal sur cette affaire de constitution, et les mêmes dit qu'il y a un pile mensonge que Jovenel Baye a toutes ses acolytes, pour ton information.
Mais je persiste à croire, oui, que peut-être il y a des gens, il faut les compter peut-être, qui sont là, à la l'OEA, qui étaient parfaitement imbus de la question, mais l'ensemble de l'OEA, le secrétaire général, ils connaissent ça qui t'a passé. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mes amis, c'est Kounia et Abkone, que ce pays était dirigé par des voyous, mais et d'où même de saloperie.
Alors, Charlot, je suis notre ça, Nabkampé, Mabdou, merci mon cher.
T'en prie.
Porte-toi bien. Et puis, nous allons faire communauté, hein, auditeurs, nos et nos internautes, tendez qui est-ce mon Mathias Pierrier, côté que tu gagnes un journaliste hein, qui descend par ta lettre, monsieur. N'a pas fait une pause, n'a pas tourné tout à l'heure.
Nous résoudre le problème de pauvreté avec le groupe peuple.
Mais maintenant, qui l'a CEP a prêté serment devant le cours de cassation?
Oui. L'apologie de la transition encore, monsieur.
Non. Monsieur Pierre, non. Monsieur Pierre.
Quel rapport avec la transition?
Quel rapport avec la transition? M'bozo, en question, Mado, qui l'a prêté serment? À la limite, monsieur Pierre. 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 Moi, invite pas vrai? Recevoir la caille,
moi.
N'a posé question. Maintenant, là, vous osez prêter mes tensions que m'a fait apologie, transition, pas vrai?
Je n'ose pas. Je dis la vérité.
Bon.
De ma compréhension.
Eh bien, moi, Mabdou, ou menti. Pas prêter mon intention. Maintenant, Mabdou, en tant que ministre, en tant que responsable d'État, moi-même, comme journaliste, m'a posé aux questions. Et tout citoyen a attendu qu'il a respecté la loi et la Constitution. Parti, ça a le clé dans tête tout?
Et par quel côté en la constitution qu'on parle là, qui dit que le conseil électoral provisoire doit prêter serment devant la cour de cassation.
Ah, ou pas les constitutions vraies. Ou pas les constitutions vraies. Ou pas les constitutions vraies, monsieur Pierre. Alors, s'il bat pour la prêter serment, ça va le chercher dans la cour de cassation le 22 septembre.
Peut-être.
Ça s'appelle Soit un trou de mémoire ou...
Et me retourne sous...
Non, 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 non. Non, 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 pas grand quel côté de la constitution qui prévoit pour prêter serment devant la cour de cassation. Ça y est, le 22 septembre dans la cour de cassation. Magique toute nouvelle sans stress.
Flané Monsieur Pierre.
Nous souvent abdi mais en pile chay palou qu'on y allait arriver oui et c'est pi bel moment oui pour nous montrer tout le monde qui vive belle Badelma cité soleil la savane au caïdi fond axi la dans troisième circonscription que nous là accueil dans tribulation n'a pas au coup mais m'a dit l'autre côté bon non mais là ça il senti dit dans figure pas de problème non tout si nous pas quoi dans tête ensemble nous pas mettre à monde nous pas connait monde et cetera histoire par histoire nous mais chaque monde prend un bout youn dit l'autre en poté coller les amis famille ça pas ni amis ni famille tout poté coller pas quitter ça à passer dans figu nous là sans pas dire petite petite maman des côtés grande mandé français mandé américain mande Chaloska, mande Vilbrin, le peuple la fâche, li pa pardonne, li pa fè nan yen a foutan me de li. Mais ça ne pense pas nous. Gade yo, mes amis, ça yo comprenne. Fa nous mande yo, ça yo comprenne. Yo comprenne yo ka fè haïtien, ton en zombie. Yo comprenne se tout un peuple la rete, la boue de l'eau senti yo. Y'oublie, ça ou te prend déjà. Y'oublie, ça peuple a fait vilbre. Le bagay la pété, puis gam tende. Si m'te connais. Haïtien. Haïtien son peuple qui gen patience. Avec patience, la poitrip foumi. Dou haïtien. Haïtien son peuple qui gen patience. Li capable prendre content avant lever camper mais lever camper c'est toute la terre qui prend trembler oh oublié ça te prend déjà oublié Peralta avec Kako fois ça peuple ka fout un cal pour pas jamais oublier mandé français mandé américain
Mande Chaloska, mande Vilbre. Le peuple la fâché, li pa pardonné, il pa fait non, n'a foutu mes de lui. Et ça ne prend, c'est pas nous. Et c'est dans tous les débats. Ni en haut, ni en bas.
Si on a appris quelque chose de la COVID-19, c'est qu'une petite chose peut se propager rapidement. Et si on est plusieurs à se faire vacciner, on peut créer une vague. Une vague de Canadiens qui font leur part pour retrouver les gens et les lieux qu'on aime. On peut tous aider en se faisant vacciner. Apprenez-en plus au canada.ca/vaccin-covid. Un message du gouvernement du Canada.
École Laguée, vive les vacances! Venez vivre des moments riches en couleurs au camp d'été 2021 de l'Association haïtienne au Canado-Québécoise d'aide aux démunis AHCQAD qui se tiendra du 28 juin au 13 août au pavillon Pirandello avec la collaboration de la députée de Saint-Léonard-Saint-Michel, Mme Patricia Latanzio. Le respect des mesures sanitaires de santé publique Canada est de rigueur durant toutes les activités du camp. Pour toute information et inscription des enfants de 6 à 12 ans, veuillez contacter Mme Félicidade Joseph au 514-852-1011, 514-778-3567, aux heures de bureau.
Au Québec, la vaccination contre la COVID-19 est en cours, mais l'ensemble de la population n'est pas encore protégée. Même si vous êtes vacciné, vous devez continuer d'appliquer les mesures sanitaires. Portez un masque, maintenez la distanciation physique et lavez-vous les mains régulièrement. En cas de symptômes, passez un test de dépistage et respectez les consignes d'isolement. Apprenez-en davantage sur les mesures au québec.ca/coronavirus. Respectons les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
Moi, gagné avec moi, il y a un partenaire de l'émission Samedi Midi Inter, en passé de présentation. Il s'agit de Edouard Stacco, à qui nous disons bienvenue sur les ondes de Radio CKUT, l'émission Samedi Midi Inter.
Bonjour Raymond, bonjour à tous auditeurs et auditrices radio. C'est toujours un plaisir pour nous avec vous chaque fois nos bonnes occasions. Hein.
Alors, et le m'gade dans ce maintenant, il y a un bel article qui est sorti sur la presse canadienne. On était réjouis moins de cette bonne nouvelle. C'est l'Observatoire des communautés noires du Québec qui a vu le jour. Alors, et parlez-nous de l'Observatoire des communautés noires du Québec qui prend naissance officiellement.
Oui, bon, premièrement, Raymond, c'est sûr que, comme on l'a vu, nous dirons une nouvelle là. Des fêtes dans tous les médias où tu reprends, qu'il était Radio-Canada, qu'il était dans la LCN ou dans la presse, etc. Nous sommes contents que nouvelle-là te reprenne parce que son réalisation collective. Parce que je vous dis, nous là, pour moi parler, c'est sûr que nous travaillons pour le dossier. Hein? Mais pas oublier que Sommaire sont regroupement de 51 organismes qui travaillent ensemble. Et quand on parle d'organismes, on parle d'organismes dans la communauté haïtienne, dans la communauté africaine, dans l'anglophone, dans le caribéen, et même dans le canadien, ça nous les vieilles sociaux. C'est sûr que notre fait une assurance sur Radio Sécurité, nous avons des organismes qui nous connaissent bien. Nous avons un exemple d'organismes comme Gavi, qui a une expertise de qui est dans Soméa, nous avons des organismes comme Centre d'arrivée, nous avons BCHM, nous avons Maison d'Haïti, etc. Donc, c'est tout organisation et citoyen engagé, tout, et qui te dit que ça prend nos outils différents. Parce que oui, nous avons des programmes, nous avons des services que nous avons. Mais nous avons besoin des outils qui mettent en valeur connaissance, nous, capacité, mais aussi à chercher des éléments dans la recherche. Parce que il y a des bagailles qui fait à l'étranger qui réussit. Peut-être que nous avons fait ici. Il y a des bagailles nous fait ou nous quatre et nous avons fait l'un l'autre. Il y a des bagailles qui fait au Canada. Donc, il y a tout vos les recherches là, mais documenter problème de tout. Parce que nous parlons de racisme noirs là, mais fait qu'à arriver aussi, documenter et proposer des solutions concrètes. Et nous remercier Fondation Chagnon qui ban nou gros coup de main dans réalisation observatoire ça qui en dans communauté noire. C'est pour observatoire comme si comme d'habitude il y a des chers qui est associé à des universités ou d'autres organisations, mais c'est bagaille pas nous dirigé par organisme pas nous.
Alors, au saut mentionné plusieurs organismes communautaires, entre autres le GAPVIE, côté que nous sommes capables de dire, c'est un organisme qui gagne une portée internationale dans la question du VIH et les transgenres que nous sommes capables de dire. C'est quand même très important de le souligner en passant.
Tout à fait. Donc, c'est très important et c'est tout bagaille que l'Observatoire a fait tout. Pas juste parler de problèmes, parler de solutions, et parler de choses bagaille pour améliorer, mais parler tout de force, nous. Donc, documenter. Donc, c'est tout élément ça qui fait que nous contents et puis nous fiers de dire c'est un projet collectif. Vraiment, comme nous toujours transparents, les radios avec les communautés à nous aujourd'hui, ça. Ça qui passe, on ben, pour nous monter l'Observatoire, son budget 6 millions de dollars sur 5 ans. C'est-à-dire que c'est quand même une organisation qui a un bon financement. Pour le travail qui est pour faire, on a gagné plus, mais comme c'est une communauté à notre travail, fait une décadimon, tout, financement qui joint, ça permet des chercheurs de travailler ensemble. Mais vraiment, on va prendre un message où on est quitté toujours à appuyer toute sa jeune fait. Mais gros programme de stage qu'a mené l'Observatoire là, c'est plus que 500 000 dollars en stage qu'a investi l'Observatoire là pour permettre aux jeunes de faire des expériences de recherche, faire des expériences importantes dans la communauté hein, et qui sait jamais, vienne faire la relève, vienne faire des recherches qui a aidé nous à aller là sur la place publique pour nous dire, nous, c'est une solution, hein, mais ou même gouvernement, que le gouvernement Canada, Québec ou Montréal, ou bien une obligation ou un travail qui peut faire, et nous là pour travailler ensemble.
Il y a une bagaille qui est intéressant, et comme un petit proverbe créole qui dit, un seul doit pas manger qu'à la loue. Alors nous, c'est tout un ensemble qui regroupe ensemble, qui vient de faire.